France Info.
Il y a tout juste 6 mois, des images terrifiantes arrivées de Gênes en Italie, l'effondrement du pont Morandi où circulaient des dizaines de camions et de voitures. 43 morts ce jour-là, dont 4 Français. Aujourd'hui, les débris de ce pont sont toujours en déconstruction, après quoi un autre ouvrage sera construit, mais pas avant 2020. Et en France, dans la foulée de cet effondrement à Gênes, une mission d'information a été lancée sur la sécurité des ponts. Elle a commencé en octobre dernier. C'est le sujet qu'on va aborder avec nos invités. D'abord, reportage à Gênes, cette ville qui a dû totalement réorganiser son activité depuis ce terrible 14 août 2018. Benjamin Mathieu.
Devant le parking de cette zone commerciale, la vue sur le pont Morandi éventré est imprenable.
C'est vraiment douloureux.
Iris Sibonacce ne peut plus accéder à sa maison située en face, sous une des piles du pont. Elle a dû tout abandonner dans la précipitation.
On m'a fait évacuer mon logement en quelques minutes, sans avoir le temps de ne rien prendre, sous une pluie terrible. Et maintenant, ça fait 6 mois de douleur.
La maison d'Iris se trouve dans la zone rouge, une zone désormais interdite où tout va être rasé. Un traumatisme pour cette professeure des écoles, d'autant que les jours qui ont suivi ce drame ont été très compliqués.
Le premier mois, alors qu'il y a 300 mètres entre ma maison et mon logement temporaire, je devais prendre une portion d'autoroute pour y accéder et on me la faisait payer.
Sur ce pont, 70 000 voitures circulaient par jour, un lien coupé. Il a donc fallu repenser toute la circulation de la ville. Enrico Musso, spécialiste des mobilités à l'université de Gênes.
Naturellement, il y a eu des très grands bouchons pour quelques mois. En même temps, cette tragédie a favorisé le fait qu'il y ait les travaux pour remettre en place les routes et les voies ferrées qui passaient sous le pont ont été très rapides par rapport, disons, au temps italien courant.
Vous parlez uniquement français ou...
Bonjour, je suis Simonetta Cenci, je ne parle pas très bien français, je suis l'agent en urbanisme de la ville de Gênes.
L'adjointe en charge de l'urbanisme supervise les travaux actuels de déconstruction de ce qu'il reste du pont.
Taglio delle campate.
En fait, on coupe la partie de la route qui se trouve entre les piliers, on la descend à terre et ensuite on démolit le pilier.
Et démolition del pilastro qui rimane libero.
Le chantier est titanesque.
Titanique,
oui. Il vient à peine de débuter. Le nouvel ouvrage signé par l'architecte génois Renzo Piano doit être remis en fonction en avril 2020. Selon une étude, son absence a déjà coûté 500 millions d'euros à l'économie de Gênes.
Un reportage de Benjamin Mathieu sur France Info et franceinfo.fr. Bonjour Patrick Chaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à la table du 12-14 de France Info. Vous êtes sénateur LR de l'Ain, co-rapporteur de cette mission d'information sur la sécurité des ponts en France, qui a donc été créée il y a 4 mois et demi environ. Georges Tempez, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la direction technique infrastructures et transports transport et matériaux au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement du territoire. Christophe Ferrari également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vice-président de l'Association des maires de France, maire du pont de Claix en Isère, où se trouve le pont de Claix, justement, c'est tout à fait logique. Monument historique, c'est, nous dit-on, l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Ce pont de Claix est encore utilisé par les piétons et les cyclistes, c'est ça ?
C'est juste, oui, tout à fait.
Ouais.
Après, il y a un autre pont qui est dédié aux véhicules, aux voitures.
Et alors, est-ce que ces deux ponts ont été inspectés récemment ?
En fait, nous avons 1500 ponts sur le territoire métropolitain de la métropole grenobloise et nous en inspectons environ une centaine par an, tout simplement pour s'assurer de l'état, puisque nous avons quasiment pas d'histoire, pas de dossier sur beaucoup des ouvrages, aujourd'hui des ponts et des murs de soutènement, sur le territoire métropolitain. Donc la métropole a en charge cela avec ses communes, de répertorier et tout simplement d'engager des travaux d'urgence sur beaucoup d'ouvrages qui aujourd'hui sont en péril.
Patrick Chaise, combien d'ouvrages ont pu être inspectés, évalués depuis le début de votre mission ?
Alors, la mission n'a pas pour effet d'inspecter les ouvrages sur le terrain. La mission a pour effet de faire un état des lieux, donc plutôt théorique, large, et de pouvoir donner des indications et des pistes d'amélioration du suivi de ces ponts.
Alors, à partir de quoi est fait cet état des lieux ?
Donc, l'état des lieux, déjà, c'est de savoir combien il y a de ponts en France.
On nous dit 200 000.
Il y a 200 000 ponts en France, 200 000 ponts qui sont répartis entre plusieurs opérateurs de collectivités, l'État déjà, qui a à peu près 12 000 ponts, les sociétés concessionnaires d'autoroutes qui gèrent 15 000 ponts, les départements, qui en gèrent 100 000, et les collectivités, donc communes ou intercommunalités, qui en ont 80 000. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'aspect construction du pont, type de pont. Les ponts sont fabriqués en fonction du temps de façon très différente.
Ouais.
On a les ponts, qu'on va dire, maçonnés, donc c'est 60% à peu près de l'ensemble des ponts. Les ponts en béton, pour 30%, et ensuite les ponts métalliques pour 10%. On s'aperçoit qu'en fonction de ces catégories de construction, l'approche n'est pas la même et le suivi n'est pas le même.
D'accord. Est-ce que vous avez suffisamment d'indications sur tous les ouvrages qui existent en France ?
Alors, c'est ce qu'on a engagé dans le cadre de cette mission, en interrogeant l'ensemble des élus et en demandant à ces élus de nous faire remonter en fait leurs problématiques, leurs questionnements et donc l'état également des ponts. On s'aperçoit là encore qu'en fonction de l'opérateur, l'approche est très différente. Ce qu'on peut dire de façon bien sûr très grossière, c'est qu'au niveau des sociétés concessionnaires d'autoroutes, il y a donc un suivi patrimonial qui est là, qui est précis.
D'accord.
Et qui donne une garantie. Au niveau de l'État, il y a eu une prise de conscience, puisque l'État a lui-même engagé un relevé de l'ensemble de ses ouvrages et a engagé campagnes de prévention et de travaux. Et puis, il y a ensuite les départements qui se structurent ou qui ont pris conscience de la structure. La difficulté reste aujourd'hui au niveau des petites communes qui, elles, ont plusieurs difficultés.
Oui, d'abord les moyens. J'imagine, Christophe Ferrari, c'est beaucoup d'argent pour entretenir un pont ?
Bien sûr que ça peut aller, en tout cas, jusqu'à plusieurs millions hein, sur certains ponts dans la métropole grenobloise. Mais c'est là où nous, l'articulation entre les communes, les 49 communes de la métropole et la métropole elle-même, nous avons pu engager ensemble une véritable dynamique, en fait, tout simplement d'inspection et également d'entretien, mais aussi de reconstruction pour certains. Mais nous sommes aujourd'hui, entre 2017 et 2020, à près de 24-25 millions d'euros en tout, entre ce qui peut être tout simplement la surveillance, l'entretien, la réparation, voire le renouvellement d'ouvrages. Mais il n'y a pas que les ponts, il y a aussi les murs de soutènement. Et vous savez, dans les vallées montagneuses et dans les zones de montagne, on a parfois besoin de tenir un peu les coteaux, qui sont autant de sujets de sécurité, de mobilité, d'assurer la sécurité des habitants, mais la sécurité des activités économiques, des déplacements. Et donc ça, c'est des enjeux qui sont absolument colossaux. Et les petites communes sont dans la difficulté. Et c'est vrai que dans l'articulation entre la métropole et les petites communes, nous avons pu tout simplement poser, je dirais, les façons d'aborder ces sujets compliqués. Et puis on a des ponts, on ne sait pas à qui ils appartiennent. On les appelle orphelins. Orphelins parce que la domanialité n'est pas tout simplement posée et qu'on ne sait pas qui les prend en charge.
D'accord.
Donc on a des ouvrages aujourd'hui, tout le monde se regarde.
Il y en a beaucoup des ponts comme ça, Patrick Chaise ?
C'est une des questions. En fait, il y en a quand même de façon significative. On s'aperçoit qu'effectivement, certains ouvrages qui avaient été construits pour des raisons diverses, que ça peut être par exemple pour des raisons ferroviaires, et qui donc ont eu des lignes qui ont disparu, ces ouvrages sont restés, et aujourd'hui, il y a une difficulté.
Allez, l'info, Diane Ferchit.
France Info.
L'effondrement du pont Morandi à Gênes, c'était il y a tout juste 6 mois. 43 morts, dont 4 Français. Dans la foulée de cet effondrement, une mission d'information a été lancée en France sur la sécurité des ponts. Il y en a 200 000, nous dit-on, dans notre pays. Nous en parlons avec Patrick Chaise, qui est co-rapporteur de cette mission d'information. Georges Tempez, qui est responsable de la direction technique infrastructure, transport et matériaux, centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Et puis Christophe Ferrari, maire du pont de Clé en Isère. Georges Tempez, j'imagine que la conception des ouvrages effectivement a beaucoup évolué au fil du temps. Qu'est-ce qui est le plus répandu aujourd'hui et le plus sécurisé comme type de pont ?
Aujourd'hui, les ponts les plus robustes sont assurément ceux qui sont en béton armé. C'est une technique qui est bien maîtrisée et qui est, je dirais, très largement utilisée pour les ponts les plus courants, les plus moyens. Ensuite, je dirais, on a des techniques qui en sont dérivées, telles le béton précontraint. Et ce béton précontraint, je dirais, est une technique plus hardie, puisqu'elle permet de franchir des brèches beaucoup plus importantes, mais elle présente une plus grande complexité technique et donc potentiellement une plus grande fragilité. En tout cas, elle demande surtout un plus grand entretien et un meilleur suivi.
D'accord. Et les ponts les ponts suspendus ou ponts à auban, comme on dit, avec des câbles, ça c'est que pour de très gros ouvrages?
Oui, alors là, on est vraiment sur des ouvrages exceptionnels, des franchissements exceptionnels. On en a bien sûr quelques-uns en France, oui. Je pense au pont de Normandie ou au viaduc de Millau, mais on voit bien qu'on est sur des brèches exceptionnelles.
D'accord. Le pont Morandi à Gênes, il datait des années 60, je crois. Ça n'est pas si vieux. Est-ce que ce genre de conception a encore cours aujourd'hui?
Alors, le pont Morandi était vraiment un cas unique, qui était d'une conception unique, avec qui associait des technologies qu'on ne retrouve que très rarement, et c'était un pont qui présentait assez peu de redondance, de robustesse, c'est-à-dire que il aurait pu suffire, et c'est malheureusement ce qui est arrivé, d'un défaut sur un des éléments pour que l'ensemble soit mis en péril, ce qui n'est heureusement pas souvent le cas sur les ouvrages.
Oui, d'accord. Et c'est ce qui s'est produit, effectivement, au moment de cette catastrophe. Alors, après Gênes, le gouvernement français a dit que 23 ponts en France avaient besoin de travaux prioritaires. Ça, c'est fait, c'est en route, Patrick Chaise?
Oui, alors c'est effectivement donc, une mission de l'État et qui a donc... Par effet de réaction engagée, une analyse plus poussée de ces ponts et qui donc a considéré qu'il fallait engager des travaux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le carnet de santé d'un pont, c'est un triptyque. C'est d'abord l'inventaire, donc connaître. C'est ensuite...
C'est-à-dire donc les matériaux, les modes de construction, etc.
Oui, le mode de construction, l'ensemble des éléments techniques. Mm-hmm. C'est ensuite la surveillance, avec des visites périodiques qui doivent être engagées pour suivre son état, avec des visites un peu plus poussées, avec des fréquences déterminées. Et ensuite, ce sont les réparations. Donc, ce n'est pas grave de faire des réparations. J'allais dire au contraire, c'est même normal de pouvoir en faire, mais il faut pouvoir les faire dans le bon timing pour faire en sorte qu'on prolonge la durée de vie d'un pont qui, de toute façon, à un moment donné, sera à refaire. C'est un ouvrage qui a une durée de vie, il faut l'admettre. Donc, évidemment, oui. Que d'un point de vue économique, l'idée, c'est quand même de pousser cette durée de vie au maximum, mais certains ouvrages seront à reconstruire.
Christophe Ferrari, vous expliquiez tout à l'heure que ça demandait quand même des moyens importants, l'entretien, l'inspection d'un pont. Est-ce qu'à votre connaissance, des communes y renoncent par manque d'argent, justement ?
En fait, quand vous regardez la répartition, vous apercevez que la plupart des ouvrages sont plutôt sur des petites communes et communes rurales, donc qui n'ont pas forcément l'ingénierie, et pas forcément sur les communes urbaines qui peuvent avoir l'ingénierie. Et c'est tout l'intérêt du lien qu'il y a ici à Grenoble entre la métropole et ces communes, finalement, de jouer ensemble. Et ici, à la métropole, nous avons une équipe de 7, nous avons doublé les effectifs en termes d'expertise, tout simplement pour accélérer toute cette question, effectivement, de connaissances, de diagnostics, de véritables connaissances, parce qu'on a, pour certains ouvrages, on n'a pas un bout de dossier, pas un fond de dossier, pour savoir quel est l'état.
Ah oui, et ça on a besoin très compliqué, des... là.
Bien sûr, et donc il faut ça pour ensuite se dire, soit on découvre qu'il est en péril, ça nous est arrivé, et immédiatement d'engager avec les maires à la fois les fermetures de circulation nécessaires et puis la mise en œuvre du travail. Donc on a doublé nos effectifs ici, nous, à la métropole, on est sur quasiment 25 millions d'euros d'ici 2020 parce qu'on a des ouvrages où véritablement il faut le faire et très vite, et puis chaque année une centaine de diagnostics vous amène à avoir une liste de priorités qui bouge. Et c'est en cela qu'on a besoin, évidemment, de l'État, financièrement, pour accompagner, parce que ça ne peut pas être simplement les collectivités.
D'accord.
Dont on a baissé les dotations depuis quand même des années, ouais. Qui peuvent assumer toutes seules.
Alors, Georges Tempèze, encore une question technique. Un pont peut être en péril et ça ne se voit pas du tout?
C'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une surveillance qui soit faite et un entretien courant. J'insiste beaucoup là-dessus avant d'être aux réparations. C'est l'entretien d'abord qui est essentiel. Oui. Mais en effet, on peut avoir des ouvrages qui semblent ne pas poser de problème et c'est en les visitant qu'on peut se rendre compte. Et puis ceci, c'est aussi renforcé par le fait qu'un ouvrage, on circule dessus, mais on ne va pas forcément en dessous. Alors c'est en allant le voir, ouais, par le dessus.
On ne voit pas tout.
On détecte les choses, voilà, tout à fait.
Et l'entretien, donc, c'est sur la durée, évidemment, mais comme on le disait tout à l'heure, un pont n'est pas éternel, quoi qu'il arrive.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Il faut bien se représenter les choses, et ça, je pense que c'est un élément essentiel. Les ouvrages d'art, un ouvrage d'art, j'allais dire courant de nos périodes actuelles, a une durée de vie qu'on peut estimer entre 70 et 100 ans. Et il suffit de penser, de songer à notre histoire et à la grande période de reconstruction qu'il y a eu après-guerre. Ben, nous avons une grande majorité d'ouvrages qui ont aujourd'hui 70 ans environ, et qui donc entrent dans leurs deux ou trois potentielles dernières décennies. Donc, on a un problème important de renouvellement. Le sénateur le rappelait tout à l'heure, il faut se mettre à l'idée que les ouvrages, il faut de toute façon les remplacer au bout d'un certain temps, et on est dans une phase un peu critique pour les trois prochaines décennies devant nous. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que tous les ouvrages sont en péril, c'est loin d'être le cas, il y a une surveillance, un suivi qui existe. Par contre, le gros problème, et M. Ferrari le soulignait, c'est que dans les collectivités, notamment dans les communes les plus petites, il y a d'abord une profonde méconnaissance du patrimoine en termes de nombre, et derrière, même aussi des absences de dossiers, comme c'était sous souvenir.
D'accord. Patrick Chaise, un dernier mot sur votre mission. Quand sera-t-elle terminée ?
Alors, elle va se terminer d'ici quelques semaines, pour être très précis. On attend, si possible, les conclusions du drame de Gênes. Parce que D'accord. C'est vrai que ça pourrait être très éclairant.
Source d'enseignement.
Et source d'enseignement pour pouvoir en tirer des conclusions. Bien. D'ores et déjà, j'allais dire, il y a plusieurs pistes effectivement qui sont avancées, dont une qui est de pousser les collectivités à avoir une gestion patrimoniale de ces ouvrages, et donc de pouvoir aussi d'avoir des conséquences comptables, parce que le nerf de la guerre, c'est bien sûr les finances et qui vont avec.
Comme on l'a expliqué tout à l'heure, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois, Patrick Chaise, Georges Tempèze et Christophe Ferrari, invité du 12-14 de France Info.